Ah ben. Ah, je crois bien que cette fois. Je crois bien que cette fois c'est fini, mon pauvre Pompidou. Ouais. Ouais, tu sais. J'en ai plus pour très longtemps. Ouais. T'as raison. T'as raison. Ça doit être la flèche que j'ai pas digérée. Ou le bourbon. À savoir. Oh, en tout cas, je te le dis. Il y a peu de chances que je m'en sorte, mon pauvre vieux. Quoi ? Bah, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre le dernier assaut. Ouais. Bon, oh, c'est l'affaire de quelques heures, tu sais. Ouais, c'est bien connu, les Indiens attaquent pas la nuit. Voilà, donc au moins, on est tranquille là-dessus. Oui, t'inquiète pas, mon vieux Pompidou. T'inquiète pas, j'ai un plan. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas y aller, toi. Mais oui, t'en es capable. Tu vas aller les prévenir. Tu leur diras... Tu leur diras qu'on s'est battu jusqu'au bout. Ouais, Pompidou, dis-leur. Dis-leur qu'on a tenu jusqu'au volume 23. Le volume 23 de l'inaudible. Tu t'en souviendras ? Volume 23. Pompidou. Allez. Allez, vas-y, mon Pompidou, vas-y. Vas-y, vite, ils arrivent. Le volume 23, dis-leur. N'oublie pas. Allez, venez, bande de cognottes à foie jaune. Vous allez voir comment se défend un vrai Walter Proof. Allez, youyou, Pompidou.
Je voulais vous demander.
Baroque,
dans les abîmes impénétrables.
Salut Walter, ça va ?
Il a succombé à une embolie pulmonaire.
Il faudrait d'abord que les molécules.
This is ridiculous.
Bonjour ma poule.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Alors la première attitude spéculatoire.
Pardon. Volume 23. Bonjour, je suis Walter Proof. Et vous écoutez l'Inaudible, le podcast qui a le bon goût de ne pas avoir bon goût. La preuve avec le sommaire de ce volume 23. Dans quelques secondes, un questionnement du professeur Laudendan, on ne s'en lasse pas. Le fameux test de Jacques-Yves Couchetard de Clermont-Tonnerre sur l'immuabilité paroxystique du stress primordial. Eh oui, enfin. Mais bon, maintenant, je sais pas si ça valait le coup. Une nouvelle recette de notre chef préféré, Magali Nassé, qui s'attaque cette fois à la cuisine moléculaire. Oulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal de musique et cette incomparable fragrance minimaliste qui fait de l'inaudible la plus inénarrable des coccigrues à col roulé qu'on ait jamais vu à l'ouest du Pecos, et même à l'est d'ailleurs. Ah, ça y est, t'es revenu, Pompidou ? Ça va ? Ouais ? Tu leur as dit ? Bon, ok, super. Alors, alpaguez vos mirettes, gratouillez les connexions de vos mirifiques adoubements, c'est parti pour un voyage gratuit dans les profondeurs excentriques des vociférations impeccables. Veuillez écouter de ce pas un questionnement du professeur Lao Tet Dan, considération sur les causes de la grandeur du saucisson à l'ail et de sa décadence. Oui, oui, il reste encore des places, madame. La caisse est à gauche, là-bas. Voilà. Merci, madame. Tout le monde est là, ça va, on peut commencer ? Bon, alors allons-y. Non, parce que c'est tout de même assez invraisemblable. Quelle que soit la méthode utilisée pour introduire une once de matérialité dans la déliquescence des épiphénomènes, Quelle que soit la puissance avec laquelle vous allez délayer les pulsions primitives dans le maelstrom des faux-semblants, quel que soit le moment que vous choisirez pour manifester votre détermination à fulgurer les syndromes essentiels, eh ben, y aura toujours un barjot pour vous mettre un cheveu dans les roues, ou même un bâton dans la soupe, pourquoi pas. Sans blague, je vous promets, essayez un peu, vous verrez. C'est d'ailleurs ce que disait Montesquieu, mais oui, vous savez bien, Charles-Louis de Secunda, baron de la Brède. Montesquieu, dans son essai intitulé « Considération sur les causes de la grandeur du saucisson à l'ail et de sa décadence » en 1734. Il disait Montesquieu, et je cite de mémoire, hein, excusez-moi si c'est approximatif, bon, ce ne sera pas la première fois, « Le saucisson à l'ail est comme toutes les choses du monde, pour le conserver, il faut l'aimer. » Pas con, hein. Et il disait aussi, le principe du saucisson à l'ail se corrompt lorsque des âmes singulièrement lâches croient que ce qui fait que l'on doit tout à l'ail fait que l'on ne doit rien au saucisson. Pensez-y. Pensez-y et vous verrez. Et une dernière pour la route. Voici comment je définis le saucisson à l'ail, un don que Dieu nous a fait en secret et que nous révélons sans le savoir. Voilà. Montesquieu, mesdames et messieurs. Montesquieu. Oui. Moi, je vous le dis, le jour où on viendra me démontrer le contraire, eh bien, ce jour-là, mesdames et messieurs, je suis prêt à matérialiser la déliquescence des épiphénomènes, à délayer les pulsions primitives, et même à fulgurer les syndromes essentiels. Et le premier barjot qui se pointe, je te lui fous un de ces coups de sauce à l'ail derrière la tronche qui pourra aller se plaindre à Montesquieu tant qu'il veut. Ça ne changera rien à la physionomie de la prodigalité chromosomique. C'est moi qui vous le dis. Non, mais des fois... Voilà. Merci, professeur, pour cette intéressante causerie que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Alors... Après moult tentatives aussi vaines qu'infructueuses, ce n'est pas sans un certain plaisir que je m'apprête à vous faire entendre maintenant la passionnante enquête de notre testeur maison, Jacques-Yves Couchetard de Clermont-Tonnerre. Avec son zèle habituel, n'ayant pas peur des mots, sa passion bien connue et son dictaphone ultramoderne, Jacques-Yves Couchetard de Clermont-Tonnerre a testé pour nous l'immuabilité paroxystique du stress primordial en trois leçons et sans les dents. On l'écoute tout de suite. Et si c'est encore foiré, je le bute ce coup-ci.
Quelle journée déjà? Ouais. Lundi, 15h15. Oh. Bah, je viens tout juste de me lever. Ouais, je sais, c'est tôt, oui. Surtout après la nuit que je viens de passer, mais c'est pour la bonne cause. Je dois tester ce truc pour Walter, là. Qu'est-ce que c'est déjà? Où est-ce que j'ai mis ces trucs-là? Est-ce que c'était pas ça? Ah, ouais, voilà. L'immuabilité paroxystique du stress primordial. Non, mais je rêve. Alors, première leçon. Que pouvons-ils nous observer de beau dans une première approche? Absolument dénuée de tout préjugé, bien évidemment. Eh ben, j'ai beau le titiller dans tous les sens, hein. Le stress primordial reste immuable. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est dans sa nature, faut croire. Bon, alors sans plus attendre, il aime pas attendre, Walter. Deuxième leçon. Tentons une approche plus sournoise. Disons que je me balade, là, tranquille, sur l'avenue. Le cœur ouvert à l'inconnu. Un peu comme si j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Mais bon, c'est pas mon genre quand même. Et soudain... Voilà. Et ben voilà, vous le constaterez avec moi, le stress primordial est resté, une fois de plus, totalement immuable. et même, si j'ose dire, de façon paroxystique. Franchement, j'hésite pas à le dire, ça me la coupe. Bon. Alors, troisième leçon, et après, on rebelle. Pas que ça à faire non plus. Troisième leçon, la méthode idiosyncrasique. Alors, imaginons que l'immuabilité persiste, à l'état paroxystique bien sûr, alors même que le stress primordial, lui, a disparu. Comme ça, d'un coup, pouf, a pu le stress, parti, envolé, désintégré, évaporé. Pas plus de stress primordial que de vivacité dans le regard de Claire Chazal. L'absence totale, quoi. Alors là, discrètement, à pas de loup, on s'approche et... Et voilà. Qu'est-ce que vous constatez-t-il ? Eh oui, le stress primordial est revenu. Plus immuablement paroxystique que jamais. Alors là, je dis trop fort le Jacques-Yves, et je clôt ici ce test en trois leçons que j'envoie aussi sec à Walter parce que j'ai pas que ça à foutre, non plus, non plus.
Bon. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on va en rester là, hein. Parce que je le connais, Jacques-Yves, j'aurais jamais mieux que ça avec lui. Qu'importe le torchon, pourvu qu'on ait la serviette. Allez, un petit coup de kikiadi, de derrière les fagots, ça nous fera du bien. Alors, la dernière fois, dans le volume 22, je vous avais fait écouter ceci.
Il avait un côté cheveux très curieux, très collé contre le crâne, et il était baudelairien. Il avait quelque chose de... une nonchalance animée par énormément de cigarettes, et tout le monde était dans un état d'admiration.
Eh oui, fastoche, bien sûr. C'était Fabrice Lucchini. Et là, je dois dire que pour une fois, eh ben, vous avez été nombreux à trouver. Ouais, ouais. Il y a Stouff, Agité, Fabrice, Big Benner, et puis c'est tout. Non, puis c'est tout, c'est pas un poditeur, c'est juste parce que c'est tout. Et mais alors, de qui il parlait, Lucchini, hein? Ah, ça, personne ne l'a dit. Eh ben, il parlait de Michel Houellebecq, écoutez.
Le Houellebecq, il en faisait des kilos dans le non-kilo. Tu sais, le Houellebecq, il est... très Duras. Tu sais, quand Duras disait « Je suis... » Tout le monde écoute dans un état d'attention extrême. « Je suis... Mitterrandienne. » Alors là, tout le monde se dit « Putain, c'est d'une puissance qu'elle vient de dire. » Après, elle laisse un long temps et elle dit « Les gens, les femmes jettent très peu. Je jette beaucoup.
» Ouais. Donc on s'en fait un autre ? Allez, c'est parti. Écoutez bien. Qui a dit ?
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas.
Alors là, c'est relativement facile de deviner qui a écrit. Mais qui a dit, c'est peut-être un peu plus dur, à vous de voir. Une seule adresse pour vos réponses, comme d'habitude. http://www.linaudible.com dans les commentaires du volume 23. Et voilà le travail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on parle beaucoup de cuisine moléculaire. Alors nous, à l'inaudible, ça nous fait drôlement rigoler. Ah, oui alors. Alors ça, pour sûr qu'on rigole. Ah non, excusez-moi, mais c'est trop dingue ce qu'on peut rigoler. Non, je vais vous dire pourquoi. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que la cuisine moléculaire, on sait très bien, nous, qui c'est qui l'a inventée.
Eh oui, Magali Nassé, bien sûr.
Bonjour. Et alors, bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue à vous tous, amateurs de bonne cuisine. La recette que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui est une recette délicate. Très délicate. Et oui, bande d'andouilles. Je sais, c'est toujours délicat ce que je vous fais, mais là, c'est particulièrement délicat. Car je vais vous entraîner dans le monde merveilleux et calorifugique de la cuisine moléculaire. Et oui, la cuisine moléculaire. Qu'est-ce que la cuisine moléculaire, me direz-vous ? Eh bien, je vous expliquerai bien, mais je pense que vous allez rien y comprendre, tas d'imbéciles. Alors, le mieux, c'est de me suivre dans mon laboratoire. Là, ce sera plus facile. Voilà, allez, venez, c'est par ici. Attention, voilà. Voilà, oui, bon. Voilà. On y est. J'ouvre la porte. Et voilà. Voilà. C'est ici que j'ai inventé la cuisine moléculaire. C'est ici que je la perfectionne chaque jour un peu plus. Alors, la recette qui vous permettra de comprendre ce qu'est la vraie cuisine moléculaire, c'est celle de la méduse bioactive au beurre d'antibiotiques à l'hélium modifié. Alors, je vous avais prévenu, c'est délicat. Alors, d'abord, ouvrir le conteneur à méduse. Alors là, il faut choisir une méduse, pas trop molle, un peu phosphorescente, plutôt claire, vous voyez, avec les filaments bien découpés, la corolle charpentée, la belle méduse quoi. Et voilà, je l'ai. Là, je la pose sur le plan de travail bionique. Voilà. Et je l'anesthésie avec délicatesse. Et voilà. Pourquoi l'anesthésie ? Vous allez me dire, tas d'andouilles. Eh bien, tout simplement parce que ce sera plus facile pour la bioactiver. Eh oui, fallait y penser. Et puis c'est tout. Donc, avec votre décompensateur vibratoire à compression tubulaire, vous dessourcez les contreforts de la méduse bien soigneusement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà bioactivé une méduse, hein, mais essayez un peu sans l'anesthésier, vous m'en direz des nouvelles. Ferez-moi les malins après. Alors ça, c'est fait. Il n'y a qu'à la laisser reposer un petit quart d'heure maintenant, elle l'a bien mérité. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le beurre d'antibiotiques à l'hélium modifié. Dans une éprouvette bien aseptisée, versez le contenu des gélules d'antibiotiques que vous aurez auparavant fait ramollir dans un bain d'azote. Pas trop froid le bain d'azote, moins 150 degrés environ, pas plus. Très délicatement, comme ça, et au fur et à mesure que vous versez, vous recueillez la mousse pour faire le beurre. Voilà. Oui, vous pouvez faire ça avec une passoire biphasée, effectivement. Réglée sur moyen ou faible, pas fort en tout cas. Là. Ça commence à prendre tournure. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez ? Je vous avais dit, c'était délicat. Je jette la méduse, par surprise, dans le creuset magnétique que j'ai activé tout à l'heure. Et flac, tiens. Ça te ferait bien. Alors, avec la seringue à ondulation récurrente, j'injecte le beurre d'antibiotique par palier de 12. Attention, c'est important ça, par palier de 12, j'ai dit, pas de 13 ni de 15, vous le réglez sur le palier de 12. Et c'est là que tout va se jouer. La température monte, la pression aussi. Les molécules de la méduse commencent à se dilater. Le beurre caramélise. Attention, la cuisson va-t-elle... Eh ben non. Et non, c'est raté. C'est raté, bande d'andouille. Eh oui, je vous avais prévenu. Ouais. La méduse au beurre d'antibiotiques, c'est pas automatique.
Un peu de musique ? Oh, celle-là, je l'adore. Roger Riffard, les petits trains.
Sur les quais des gares, les petits trains sont à la mare. Les petits trains, en trois bonds, sont au bout de l'horizon. Moi, je reste sur le quai des gares, à les suivre du regard. Sur les quais des gares grises, y a des gens chargés de valises. Les petits trains, en trois bonds, les conduisent à l'horizon. Moi j'agite mon mouchoir, question de leur dire au revoir. Suis le balayeur qu'on voit, balayant le long des voies. Les petits trains, en trois bonds, sortent de mon horizon. Où ce qu'ils peuvent bien fiche le camp, que je me dis en balayant. Ils s'en vont vers des pays pleins de blé épanouis. Les petits trains, en trois bonds, parvenus à l'horizon, sifflent des airs guillerets par les champs et les forêts. Quand ce sera l'enterrement de mon cousin Ferdinand, le petit train, en trois bonds, m'emmènera vers l'horizon. Ça me fera trois jours de vacances, je m'en réjouis d'avance. Suis le balayeur qu'on voit, balayant le long des voies. Les petits trains, en trois bonds, sortent de mon horizon. Où ce qu'ils peuvent bien fiche le camp, que je me dis en balayant.
Roger Riffard, romancier, auteur-compositeur, interprète, 1924-1981. Un physique pas facile, hein, une voix pas commode, mais un talent fou. Merci à Serge Fournel et à Ola Radio de nous avoir empêchés de l'oublier. Graphiquement, on ne peut pas dire que la tabulation marginale des paramètres quantiques soit une réussite. Mais ça en jette quand même. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est fini pour cette fois. Qu'est-ce que vous croyez ? Quand il y en a pour un, il n'y en a pas forcément pour plus. Alors voilà, comme d'habitude, je vous dis merci, hein, bien sûr. Merci à la centaine de petits malins qui étaient abonnés à l'Inaudible il n'y a encore pas longtemps. Les malins, c'est comme ça, ça va, ça vient un peu plus, un peu moins. Merci aux visiteurs de l'Inaudible, venus de Hanoï au Vietnam, de Sanaa au Yémen, de Geelong en Australie, de Palo Alto en Californie, de Fernando de la Mora au Paraguay, de Mormugao en Inde, ou de Guerlesquin en Bretagne. Moi je vous dis, revenez quand vous voulez. Ce sera un plaisir de tailler une bavette avec vous, que ce soit sur le blog de l'Inaudible, sur Twitter ou sur Plurk, hein, Plurk, Plurk. Vous me reconnaîtrez facilement, moi c'est WProof. Ah, et puis n'oubliez pas la minute incompétente, hein, tous les samedis, à l'heure de l'apéro. Allez, c'est plus la peine, il n'y en a plus, bonjour chez vous, comme je dis toujours, s'il n'y a personne, ça fera plaisir aux meubles, et à bientôt, peut-être.
Et Houellebecq, Houellebecq, ouh, Houellebecq.